La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers pour cette dernière Covidienne de la semaine. On va terminer tranquillement en musique et pas avec n'importe qui puisque l'on a pu s'entretenir avec Lojo, groupe angevin bien connu qui sortira demain leur 16e album studio Trans de Papier. A cette occasion, Sarah s'est donc entretenue avec Denis Péan, cofondateur du groupe, et je vous propose et bien que l'on écoute ça sans plus tarder. Très bonnes émissions à toutes et à tous.
Polyrythmie, polyphonie, à la fois sauvage exploration et douce promenade, leurs notes, leurs mots et leurs harmonies nous font vivre leur voyage. Peut-être trop anarchique pour être qualifié, mais bien trop généreux pour ne pas s'y arrêter, le groupe angevin Lojo s'est formé en 1982, créé par Denis Péan, Richard Zenou et Richard Bourreau, et oscillant entre des influences chamaniques et vagabondes, Denis Péan est avec nous pour parler du groupe Lojo et de leur nouvel album Trans de Papier qui sortira le 4 décembre prochain. Bonjour Denis.
Bonjour.
Vous êtes né en Anjou, vous avez fait vos études à Angers, entre autres au conservatoire de musique. Quel est le genre musical que vous avez découvert en premier en tant que jeune auditeur, puis vers quoi vous êtes-vous dirigé quand vous avez commencé à vous-même jouer de la musique?
La première musique que j'ai écoutée, c'est de la musique de bal. Le bal populaire, la valse, le passo doble, les choses à danser pour le bal. Après, adolescent, j'ai découvert le rock.
Et c'est la première musique que vous avez jouée aussi?
Pas exactement. La première fois que j'ai posé les mains sur un clavier, je voulais inventer. Voilà ce qui m'intéressait. J'avais l'intuition que ma vie serait l'invention, serait la création.
Votre histoire a commencé en quelque sorte dans une ferme à Pont-de-Cé. Qu'est-ce que vous évoque cet endroit et qu'est-ce qu'il raconte?
Oui, en fait, quand on est un groupe, on cherche un local. Voilà, on a trouvé un grenier. On a trouvé un grenier, on s'est installé là et ça a été un va-et-vient, c'est sans de musiciens, d'idées, un parcours de débâcle, d'invention, de. Voilà, tout ce qui fait qu'on monte un groupe avec des gens qu'on ne connaît pas encore. C'est l'aventure humaine, l'aventure musicale et l'aventure humaine. On ne sait pas où on va en fait, c'est un terrain vierge.
À quel moment vous avez décidé justement comme ça de commencer à monter un groupe et de travailler en collectif?
Peut-être que j'ai eu 14 ou 15 ans, je voulais faire un groupe. Je n'avais pas encore trouvé de nom, mais je l'avais imaginé. J'avais vu une image qui représentait le son que je voulais faire.
En 82, vous fondez le groupe Lojo avec Richard Zenou et Richard Bourreau. Et alors, vous alternez entre exploration, vagabondage, rencontres, poésie et musique. Comment ont été vos débuts et à partir de quel moment vous avez pu vivre de votre passion?
Bah des débuts chaotiques, traversées d'inspiration et puis le long parcours de l'apprentissage. On ne savait pas jouer, on n'avait pas d'apprentissage, de créer. Donc on a inventé, on a façonné nous-mêmes avec nos propres qualités et défauts et handicaps et génies, si on en a. On a fait quelque chose. Et à partir de 88, on a été embauché par une compagnie de cirque et qui nous a entraînés sur les routes de l'Europe en camion, en caravane. Et là, ça a été nos premiers pas dans la vie professionnelle, avec un programme, avec un planning et même avec un salaire, ce qui était extraordinaire. Mmh. Et ça nous a emmenés en Europe et puis aussi à New York et puis aussi à l'île de la Réunion. Et depuis ce temps-là, on n'a jamais quitté la route.
Lojo a connu bien des changements depuis sa création. Après 17 albums sortis et bientôt un 18e, il est aujourd'hui formé de vous, notamment au piano et à la voix, de Richard Bourreau, notamment au violon, de Nadia Nidelmourid aux voix et percussions, de Yamina Nidelmourid aux voix, saxophone et percussions. Est-ce que Lojo est une grande famille d'accueil qui se renouvelle sans cesse, ou est-ce que cette famille actuelle que vous avez là est la définitive?
Ce n'est plus Baptiste qui est batteur, c'est Yamina qui fait désormais la batterie.
D'accord.
Et puis c'est un bassiste qui est le cinquième membre de l'Ojo, oui. Alex Kochenek, qui est bassiste, qui fait des programmations aussi électroniques sur scène et qui joue le clavier basse. Qui sait ce que lui réserve la vie? J'oscille entre croire au hasard et croire au destin. Donc le matin, je suis plutôt le destin, le soir, je serai plutôt le hasard. Et je ne sais pas ce qu'il y a.
Vos compositions sont extrêmement riches d'univers, de contes, de notes, de genres musicaux. Ce sont notamment vos voyages qui nourrissent ces chants. Comment est-ce qu'on raconte le sauvage, le nomade, le brut à travers des notes parfois très reposées, très enchanteresses? Et quelle différence entre le voyage terrestre et le voyage musical?
La musique, c'est un art magique. Il est de toute façon difficile à expliquer. Un musicologue pourra dire que cette musique était émouvante parce qu'on a utilisé une septième, une tierce mineure, un tempo lent, par exemple. Mais bon, c'est bien plus obscur que ça, c'est bien plus mystérieux que ça. Dans la musique, rentre tout ce qu'on est. C'est pour ça que, auditeur sensible, on ressent la personne qui l'a joué, on ressent son cœur vibrant. Ressent son esprit. Dans la matière musicale, tout qui rentre. L'époque rentre. Il n'y a pas une musique qui soit éloignée de son époque, qui l'a vu naître. Le pays rentre. Le désert rentre dans la musique du désert. La ville rentre dans les musiques urbaines.
Vous considérez-vous comme un poète?
Dans la mesure où je manie la langue avec une certaine économie, avec un dessin, disons, un peu hystérique, si on peut dire, que même si je n'emploie pas la rime exactement, je fais rebondir les sons, les syllabes, oui. Oui, je suis un poète, oui.
Et quel est votre rapport aux mots, justement?
Mes rapports aux mots, à la fois j'aime les mots, à la fois je m'en défie. C'est qu'on peut tromper le monde avec des mots. Que le langage, il suffit à grande transformation, un mot d'aujourd'hui, le même que celui d'il y a 20 ans, ne veut plus dire la même chose selon les circonstances environnantes. On appuie vraiment éventuellement des croyances sur des livres, donc on accorde beaucoup d'importance au verbe, c'est notre culture, le verbe, mais le mot est traître aussi. Donc je le vois comme un ami et quelquefois il peut poignarder.
Puis-je, est-ce que je peux vous demander votre poème et ou votre poète ou un poète qui vous accompagne et qui vous berce?
Il n'y en a pas un en particulier. Dans l'histoire, dans l'héritage de la langue française, il y en a beaucoup, que ce soit des poètes africains. Notamment, j'ai lu dernièrement une compilation de poètes congolais, et le titre est éloquent, c'est « Poète, votre silence, c'est un crime ». Donc, plus qu'une personne, c'est la langue qui est vivante, la langue qui est mouvante, et éventuellement dans la bouche de l'innocent, ou la bouche du passant, ou la bouche de l'inculte.
Vous et le groupe êtes souvent qualifiés de baroudeurs. Quelle définition a le mot baroudeur pour vous, et s'y cache-t-il une connotation particulière?
Baroudeur, je ne sais pas ce que c'est, les gens qui disent ça, donc nous sommes des voyageurs, tout simplement, puisqu'on prend la route, on va d'un point à un autre. Baroudeur, c'est-à-dire qu'il y aurait une partie d'improvisation. Il y en a quelquefois, il y a des voyages qui sont voués au un petit peu, qui s'improvisent, il y en a d'autres qui sont très bien réglés, c'est une tournée. On sait qu'en juin, telle date, on jouera ici ou là. On oscille entre des choses un peu sauvages et des choses qui sont bien réglées par nos compagnons, administrateurs, managers, tourneurs, etc. Baroudés, oui, la vie c'est une bourlingue, de toute façon. La avis, ne serait jamais totalement. Et le voyage, il est intéressant quand il surprend.
J'ai peur de poser une question sans réponse, mais quelles sont les influences musicales majeures de Lojo?
Alors déjà, on est plusieurs, alors, donc on n'a pas le même âge. Et donc on est baigné dans des musiques différentes, donc je ne peux pas répondre pour tout le monde. Moi, je pense que tout ce que j'ai écouté m'a intéressé, m'a imprégné. En passant par le jazz, la musique qu'on appelle classique ou baroque, occidentale, je ne sais pas si c'est un bac, Handel, etc., la musique plus moderne de Ravel, le rock, la musique psychédélique, toutes les musiques que j'ai rencontrées en Afrique, les musiques étudiantes d'Europe centrale, la particularité des musiques asiatiques, les subtilités de la musique de l'Inde, tout ça, ça m'a touché quelque part, ça m'a imprégné. Je n'ai pas étudié. Je n'ai rien étudié précisément, j'ai un propre chemin simplement.
Votre nouvel album Trans de papier, dont la chanson du même nom est déjà sortie, raconte d'une certaine manière le monde d'après, pas vraiment une page qui se tourne, mais plutôt une autre qui se dévoile et qui porte en elle d'ailleurs toutes les autres pages bien enfouies entre votre monde intérieur de 1982 et celui de 2020. Quelle différence ?
Quelle différence entre avant ou après ? Il se passe des choses un petit peu uniques et mondiales qui font qu'il y a maintenant une fêlure entre ce qui existait avant, ce qui existera et qui est encore absolument imprévu. Il y a des grands signes qui séparent les époques de la vie personnelle et de la vie collective. Là, il y en a une. Et j'ai l'impression de recommencer, d'être innocent aussi, ça sert mon innocence, ça m'a servi à me poser, à regarder tout ce que j'ai fait en fait, que je pouvais par habitude peut-être trouver, avoir banalisé en fait, c'est extraordinaire d'aller ici ou là, extraordinaire de faire autant de disques, de côtoyer autant de gens.
Trans de papier a été enregistré entre l'Anjou et le studio Real World en Angleterre, studio qui a vu passer Kanye West, Beyoncé, Muse ou encore Tom Jones. J'aurais aimé connaître votre rapport à l'industrie musicale et au succès qui, mine de rien, est presque l'antithèse de ce que vous racontez dans vos compositions, du naturel et de la simplicité, dans le sens de générosité que vous véhiculez.
Oui, alors la musique, c'est une industrie. En marge, disons, du marketing ou de la tendance. Pour moi, je vis avec la musique. La façon de vivre, c'est de vendre des disques pendant longtemps. Bon, ça c'est ça, puisque le disque est quasiment en train de disparaître. Il n'y a pas d'antithèse entre la poésie et le fait d'avoir un métier.
Qu'est-ce qu'une transe de papier? Qu'est-ce que ça veut dire?
La création musicale ou autre, c'est une transe. C'est-à-dire que c'est une palpitation particulière, c'est un état du corps et de l'esprit qui n'est pas ordinaire. Voilà, c'est ça la transe. Elle est violente, ou elle est rude, ou elle est très active, ou elle est douce, elle est neutre, surtout si elle est papier, parce qu'elle sort de l'écriture, elle sort des mots. Et le papier, c'est quelque chose qui est pacifique. Il y a cet ordre qui frémit doucement au gré des vents.
Vous retrouvez dans cet état de transe pendant le processus d'écriture ou pendant les concerts?
Oui, la scène, ça transporte dans un état inexistant. Je ne connais rien qui ressemble à cet état d'urgence, de survie, mêlé d'extase et d'inquiétude.
Sur cet album, plusieurs artistes viennent mettre leurs pattes, notamment le batteur et pionnier de l'afrobeat Tony Allen, qui s'est éteint le 30 avril dernier. Comment s'est passée cette collaboration?
J'admirais Fela depuis longtemps. Fela Nicolapo, qui était le groupe, c'était le chanteur avec lequel Tony Allen a inventé ses rythmes. Je l'avais vu une fois en concert à New York, je l'ai vu précisément une fois à la maison de la radio à Paris, tout près de moi, derrière les poignets. Et cet homme avait une frappe tellement délicate, tellement percutante, en bougeant presque pas le corps, avec quelque chose d'une austérité lumineuse. Je pourrais dire, il serait comme s'il faisait tourner l'orchestre autour de son poignet. J'ai eu envie de l'inviter, ça s'est fait beaucoup plus tard, et curieusement, dedans. J'aime bien les anciens. Beaucoup de respect pour mes les gens qui me laissent en héritage la musique. Et avec Tony, et plus c'est un musicien, c'est un philosophe, à la fois d'une activité humaine particulière. C'est une affaire de transmission.
Qu'est-ce que représente l'album Tranche de papier pour vous, personnellement ?
Personnellement, c'est tout. Ça représente tout. C'est toute une vie qui est mise là-dedans. C'est des heures de patience à mettre une note après une autre. C'est des heures de discussion avec un groupe pour savoir quelle chanson on va choisir. Et si cette parole est juste, si on la garde, on la garde pas. Si le tempo, il est celui-là ou il est un autre. Et si l'instrumentation doit être dénudée ou pleine. La somme d'une vie, c'est tout le monde qui met son émotion tellement fortement là-dedans et qui aussi. Et c'est là où j'aime l'idée de mes je suis pas entier, j'ai passé de tubes dans les années 80. C'est notre métier, on le pratique comme des artisans. Et les fragiliser en ce moment, et ça nous rend encore plus sensibles à ce qu'on a à faire, qui est de jouer, de donner du son en offrande à qui veut bien.
En parlant du contexte actuel, vous avez décidé d'ailleurs de sortir cet album malgré les conditions qu'on connaît, qui sont celles de confinement. Dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on fait pour continuer à voyager, pour continuer à partager ?
Pendant le voyage, pas, j'ai jamais arrêté aussi longtemps. J'ai fait 32 ans sans plus d'un mois sans faire de... Là, on est à demeure depuis bientôt un an. Donc, pour voyager, on ne peut pas. Et j'apprécie, non, un petit peu cette pause. J'apprécie d'avoir ce temps distendu. Devant moi, il y a des gens qui sont plus en situation bien plus délicate que moi dans la société dans laquelle je vis. On va attendre que le temps passe. On a un disque déjà. C'était un objet où est inscrit notre histoire. Il est possible de l'écouter chez certains qui ont des magasins qui vont ouvrir. Il y a notre site, l'audio pour le commander. Et on l'a sorti parce que ce qu'on sait, si ça sera mieux en janvier, en février, en mars, non, mais on doit vivre, on doit continuer à vivre. On traverse la vie avec ses difficultés, avec ses obstacles.
Vous prévoyez une tournée post-confinement ?
On prévoit. Non, on avait une tournée de prévue qui n'existe plus. Prévue, on le prévoit grandement, on l'espère en tout cas.
J'ai une dernière question pour vous. Demain sera-t-il plutôt virtuose ou bien épine dans la paume ?
Oui, ben là, je laisse la question posée. Je laisse la question posée. Je trouve que dans ce disque qu'on a fait avant, toute cette histoire de virus, etc., il y a comme beaucoup de prémonition quelque part, mais sans doute la faculté de l'artiste est éveillé au bruissement de la vie que de peut-être de pressentir des choses comme l'animal. Il y a pas mal de prémonitions en fait dans ce disque, je trouve.
C'était les paroles de Tranche de papier, déjà disponibles sur internet, et pour le reste de l'album on se donne rendez-vous le 4 décembre. Merci beaucoup Denis.
Merci Sarah, merci pour les questions qui étaient intéressantes. J'écoute Campus, c'est ma fille qui m'a fait découvrir en voiture avec elle.
Yeah.
retour dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. À l'instant, c'était donc Lojo avec le titre Trans de Papier, issu de l'album du même nom qui sortira demain 4 décembre. Voilà, Trans de Papier, 16e album studio de Lojo. Il va être quant à nous l'heure de nous quitter. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine d'actualité locale dans la Covidienne. Bon week-end.